19h04 déjà, voici le magazine des déchaînés du football. C'est en direct sur Radio Bonheur, comme tous les lundis soirs. Avec ce soir en studio, Gaëtan, Monsieur Gaëtan Pinel. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
L'homme des Merlus, l'homme de Guingamp, l'homme des Rouges et Noirs, c'est Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Willem qui est chargé du live vidéo sur la page Facebook des déchaînés du football Guingamp. Mais ça va être évidemment partagé sur la page Lorient pour que l'on puisse eh bien, vous montrer un petit peu cette émission qui va donc commencer par Lorient, encore une fois. On salue Thomas aussi, qui est un jeune. Bonsoir. Qui est venu nous voir un petit peu comment ça se passait dans les coulisses de Radio Bonheur. Et mon cher Gaëtan, commençons par ces Lorientais qui donc
se relancent.
Eh oui. Eh oui, Lorient qui se relance, qui se reprend grâce à une victoire 1-0 à Rodez. Une victoire qui a été un petit peu difficile à obtenir, mais qui est quand même là et c'est ce qui compte. Il fallait les 3 points pour reprendre une certaine marche en avant après 2 défaites consécutives du côté de Lorient. On va d'ailleurs réécouter bien sûr ce qu'il s'est passé vendredi soir. C'était au stade Paul Lignon à Rodez. Voici le résumé du match dans les conditions du direct.
Qui n'a ouvert le score que 5 fois sur les 17
derniers matchs. Attention, la tête et le but de Pierre Ivamel pour le Football Club de Lorient. Et bien ça y est, son 9e but dans la saison à Pierre Ivamel. Il n'avait plus marqué depuis plusieurs semaines et là il débloque son compteur ce soir à la 10e minute de jeu sur ce centre, ce délice de centre de Vincent Le Goff qui lui eh bien distribue sa 7e passe décisive de la saison. Le Football Club de Lorient ouvre le score à Rodez et mène 1-0 après 10 minutes de jeu.
Du score.
Oh, attention, ce sont des Oh, il est venu couper ce ballon légèrement devant Paul Nardi. Il a surtout effleuré, pas suffisamment dévié Pape Sané pour tromper Paul Nardi. Heureusement pour les Merlus, parce que là, ils avaient été pris pour la première fois de la soirée à revers. Qui va être servi, Boissier non, mais en revanche Wafsa va l'être et va conserver le ballon devant Berger avant de se retourner. Frappe ensuite, contrée, cette frappe et elle va passer à côté du but de Nardi qui avait accompagné, mais ce sera un corner. Coup franc qui va être frappé par Boissier, ce sera au point de pénalty. La tête, la claquette de Nardi.
Qui est servi comme
ici. Frappe de Tertero. La frappe de Tertero qui passe juste à côté du but de Paul Nardi. La porte pour trouver le fait dans le cœur du jeu. Il a un petit boulevard devant lui. Là, le fait, il peut écarter immédiatement vers l'Orienté sur le côté gauche. L'Orienté qui va aller provoquer son vis-à-vis sur son pied droit. Passement de jambe dans la surface. L'Orienté la frappe ensuite. Elle est un petit peu écrasée. Elle est contrée et captée.
Le ballon exclusivement dans les pieds rouges et noirs.
Jimmy Cabot qui va pouvoir frapper. Frappe de Cabot, elle est trop croisée. Cette frappe de Jimmy Cabot parfaitement lancée par Julien Ponceau sur le côté droit de l'attaque orientaise. Le fait qu'il peut lancer Amel, il va résister Amel à Pierre Bardi. Frappe d'Amel contrée. Oh, il passe au-dessus du but. C'est joué et c'est terminé. Ça a été difficile, laborieux dans cette seconde mi-temps, mais Lorient s'impose.
Et Lorient s'impose, effectivement, ça n'a pas été facile.
Non.
Pour les Merlus, mais en même temps, les Merlus n'avaient pas été très bien payés non plus de leurs deux dernières rencontres avec deux défaites. Bon, cette fois, ils n'ont pas laissé passer leur chance et ils ont pris les 3 points.
Exactement.
Avec pas beaucoup d'occases, mais ils ont été costauds aussi derrière. C'est un clean sheet pour
Tout
Lorient qui en avait besoin.
Pas de but encaissé alors qu'ils avaient concédé 5 buts lors des 3 matchs précédents. Il y avait eu une certaine faille défensive sur les matchs précédents, notamment contre Le Mans et Guingamp. Mais à l'inverse, des matchs contre, enfin, ou surtout du match contre Clermont, Lorient a eu beaucoup moins d'occases. Beaucoup moins de maîtrise dans ce match, en tout cas sur certaines séquences. Mais Lorient a été efficace et Lorient a marqué surtout le but qui lui a permis de.
Dès la première occasion.
Dès la première occasion, 10e minute.
Ça faisait longtemps, ça faisait deux matchs.
Ça faisait. Ouais, bah. il y avait juste un match où ça s'était pas
c'est
arrivé.
Incroyable cette stat quand même, on le dit à chaque fois, mais c'est quand même historique, c'est du jamais vu. Hein. Une équipe qui, une fois sur deux, met un
même
but
un
sur
plus,
sa...
Plus
d'une fois sur deux cette saison, et on n'est pas à la cinquième journée, enfin je veux dire, on arrive aux deux tiers du championnat, et plus d'une fois sur deux, Lorient ouvre la marque sur sa première occasion.
Ça doit être l'équipe qui marque le plus dans le premier quart d'heure, dans la première demi-heure.
Oui, alors des fois, les premières occasions, elles arrivent justement...
Tardivement.
Par exemple, au Mans, c'était à la 16e, donc juste après. Ouais. Mais il y a eu Rodez et Sochaux à l'aller. C'était des matchs assez fermés et les buts avaient été marqués sur leur première occasion, mais en deuxième mi-temps. Donc ce qui parfois vient contraster. Mais c'est vrai que oui, c'est arrivé souvent dans le premier quart d'heure et même dans les 5 premières minutes aussi, il y avait eu une série de matchs comme celle-là.
Tandis que Guingamp, c'est l'équipe qui marque le plus dans le dernier quart d'heure.
On s'en souvient, effectivement.
Allez,
l'équipe de Lorient donc, qui a gagné 1-0 grâce au but de Pierre-Yves Hamel, son 9e cette saison. Il n'avait plus marqué depuis la 20e journée et un match face à Caen. Pierre-Yves Hamel avait le sourire de retrouver le chemin des filets.
Je pense pas qu'on ait eu des doutes. Je pense plus que c'était de la remise en question et sur notamment les aspects défensifs. Parce qu'on sait que nos qualités depuis le début de saison, c'est les transitions défensives. On avait beaucoup de situations où récupérer les ballons hauts. Et c'est ce qui nous manquait un peu sur les derniers matchs. Et on a essayé de remettre ça aujourd'hui. Après, non, je pense pas qu'on ait à avoir des doutes. On connaît nos qualités. C'est juste à nous de faire en sorte de savoir les exprimer.
Ouais, c'était bien sûr Enzo Lefebvre, pas Pierre-Yves Hamel, mais Enzo Lefebvre qu'on a entendu. Voilà. Bien sûr, parce qu'il fallait rebondir après les deux défaites de rang. Et on le disait la semaine dernière, la pire des façons de répondre à ces deux défaites de rang aurait été de paniquer, sans doute, d'avoir du doute. C'est ce que n'a pas eu Lorient, justement. Et Lorient a su reprendre sa marche en avant à Rodez vendredi soir au cours d'un match qui, on l'a dit, a été éprouvant. Mais l'efficacité était là, à l'inverse des semaines précédentes, notamment Pierre du match à Guingamp aussi, où il avait manqué cette efficacité. On se souvient de notamment 4 grosses occasions en deuxième mi-temps pour Lorient.
Oui, un gros temps fort de Lorient qui n'avait pas été transformé. On se souvient des parades de Caillard. Il y a eu un sauvetage aussi, je crois.
Il y a eu un super Caillard aussi.
Hein. Il avait été bon en deuxième mi-temps, Caillard, devant les attaquants.
Oui, ce qui était paradoxal dans ce match-là, c'est que Lorient avait marqué en première période sur sa seule occasion et il les avait multipliés.
C'est la première fois d'ailleurs que Lorient perdait un match en ayant ouvert la marque.
Exactement.
C'était la
seule fois que c'est arrivé cette saison. Bien là, ils ont encore ouvert le score, mais cette fois, ils ont tenu à Rodez grâce donc à Pierre-Yves Hamel, attaquant qu'on va écouter.
On s'entend très bien avec Vincent, que ce soit sur le terrain ou en dehors, donc ça fait un moment qu'on joue ensemble. Je pense qu'on doit être un des plus vieux en termes d'expérience dans le groupe depuis un moment, donc on commence à avoir des automatismes après quelques années. Et puis je sais que c'est une de ses positions préférentielles quand il est un peu lancé comme ça et je sais dans quelle zone il peut les mettre. Donc après, avec la qualité qu'il a, on essaye de se déplacer pour lui offrir des opportunités.
Il n'y a pas eu énormément d'occases non plus pour Lorient dans ce match, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs.
Et non, il n'y a pas eu. Il y a eu pour Rodez, il y a vraiment deux grosses occasions. Une pour Sané en première mi-temps, une pour Doulin de la tête en deuxième. Et pour Lorient, il y a ce but. Il y a une grosse occasion pour Cabot aussi en deuxième mi-temps. Mais voilà, il n'y a pas eu forcément beaucoup de situations offensives. Mais en revanche, Hamel lui a profité de l'une de ses seules occasions finalement pour marquer sur un centre de Le Goff qui a délivré sa 7e passe décisive cette saison, le latéral gauche Vincent Le Goff. Mais ce qu'il faut aussi retenir de ce match de Lorient à Rodez, c'est la deuxième mi-temps qui a été éprouvante, qui a été, on l'a dit, il y a même eu une grosse partie de la première mi-temps, mais surtout en deuxième mi-temps où il y a eu 30 minutes difficiles. On attendait presque que la fin de match arrive parce qu'on se disait c'est pas possible, ça va pas tenir. Même s'il n'y avait pas beaucoup d'occasions concédées, il y avait une certaine pression imposée par cette équipe de Rodez. Christophe Pélissier est d'ailleurs revenu sur cette seconde période plutôt difficile.
L'entraîneur de Lorient.
Et la qualité de Rodez qui a mis une grosse pression, et puis nous qui n'avons pas tenu le ballon comme il fallait dans des zones hautes qu'on était capable de faire. On sentit qu'on avait un petit peu de crainte après deux défaites et on s'est un peu recroquevillé. Bon, voilà. Mais bon, on va retenir aujourd'hui le 1-0. On disait que la semaine dernière, bien sûr, on avait fait un bon match, mais à la sortie, on avait perdu. Ben, ce soir, l'efficacité peut-être de notre côté, même si, à part une situation en première mi-temps énorme, je n'ai pas le souvenir d'une grosse situation de Rodez. Donc, je pense qu'on doit pouvoir tuer le match en deuxième mi-temps qu'on ne fait pas.
Voilà, Rennes, Lorient qui stoppe l'hémorragie, ouais. et Lorient qui, du coup, bah, profite aussi du faux pas de Lens. Ça, c'est assez incroyable parce qu'on n'attendait pas une défaite, en plus une défaite aussi lourde des Lensois sur leur pelouse face au Stade Malherbe de Caen, un club qui se situe plutôt dans le ventre mou, mais plutôt
qui joue le maintien cette saison.
Voilà, plutôt dans le bas du classement.
Avant le match, ils avaient, je crois, 3 points d'avance sur le barragiste, les Canets.
Pour Caen, gagner à Lens 4 buts. En plus, samedi après-midi, c'était vraiment inattendu. Oui. Surtout que Lens connaissait le résultat de Lorient et d'Ajaccio, qui étaient juste derrière avant cette 26e journée du championnat de Ligue 2. Et donc, Lens avait tout intérêt, effectivement, à prendre 3 points. On pensait tous, d'ailleurs, que Lens allait prendre 3 points lundi après-midi. Ça fait partie vraiment des grosses surprises de cette 26e journée, Gaëtan.
Oui, avec une défaite donc 4-1 des Lensois, qui menaient pourtant 1-0, qui ont perdu ensuite les médailles. Ouais. Il y a eu 2 pénaltys concédés. Un carton rouge aussi pour Clément Michelin, l'un des défenseurs lensois. C'est 4 buts donc concédés et ça fait 7 en 2 matchs parce que lundi dernier ils en avaient concédé 3 déjà à Châteauroux.
Oui, c'est pas contre des terreurs.
En plus,
on a l'impression que ces lensois, ils sont un peu.
Une victoire en 7 matchs.
Exactement.
Ils sont un peu dans le dur depuis l'arrivée de cette année 2020. Et moi, c'est surtout l'impression que j'ai, c'est qu'ils s'énervent un peu facilement. Ces lensois. C'est la sensation que j'ai, c'est qu'ils perdent leur nerf peut-être trop facilement depuis quelques semaines.
Ouais, ça a notamment été le cas sur ce match contre Troyes où Michelin est expulsé justement pour avoir été un petit peu trop véhément avec l'arbitre suite au troisième but, je crois, des Canets. Et des Lensois qui n'ont gagné qu'un seul match en 2020 sur 7. Une victoire, 4 matchs nuls, 2 défaites. Et puis donc, on a dit 7 buts encaissés en 2 matchs, dont 4 à domicile. Ça fait beaucoup de choses qui se multiplient du côté Lensois. Autant Lorient avait enchaîné 2 défaites de rang aussi, comme Lens, mais dans le contenu,
c'était pas alarmant. Ouais, parce que c'était presque illogique à chaque fois les deux défaites.
C'est ça.
C'était
surtout
sévère.
Celle de Clermont,
C'était sévère à chaque fois pour Lorient, donc on n'avait pas trop d'inquiétude. Autant pour Lens, surtout qu'il y a encore 2 mois. Même un mois, je dirais, on n'avait vraiment pas l'impression que Lorient et Lens pouvaient être inquiétés dans ce championnat.
Non.
Et on le voit, Ajaccio revient fort, malgré 2 défaites également. Hein, 2 défaites à domicile. Avant la victoire contre Le Mans ce week-end. Finalement, c'est Ajaccio qui prend la 3e place. La 2e place à Lens. Et on le sait, seuls les 2 premiers grimperont la saison prochaine en Ligue 1. Ça risque d'être à couteau tiré cette fin de saison et plus difficile que prévu peut-être pour Lens. Hein. Inquiétant pour les Lensois.
Oui, les Lensois qui sont en mauvaise posture face à des Ajacciens qui, eux, vont mieux, mais qui ont une série de matchs qui ne va pas forcément être évidente. Alors, les 3 prochains matchs, ils vont aller à Valenciennes, recevoir Lorient, puis aller à Nancy. C'est pas forcément évident.
Il y aura Guingamp pas longtemps après aussi.
Qui arrivera aussi
dans le haut du classement. Pour Lorient, ça ne va pas être facile non plus.
Non, voilà.
Pour
mais justement,
clubs,
côté Ajaccien, ils termineront les Corses la saison par 3 gros matchs aussi, parce qu'ils iront à Lens avant de recevoir 3 et d'aller au Havre. Donc Ajaccio a déjà une certaine pression du résultat peut-être avant les dernières semaines, parce que dans les
avant
dernières
le
semaines
mois de
ça
mai.
Se compliquera sérieusement. En tout cas, l'adversité devra sans doute être un peu plus forte. À noter que pour ces places de barrage, c'est pas encore terminé pour cette 26e journée, puisque 3 joue ce soir un derby contre la JOCR.
3 pourrait revenir dans le coup. Hein.
Ben c'est ça, 3 pourrait recoller quasiment
à Lens.
Hein. C'est ça.
On a toujours ces 3, enfin on a toujours 3 clubs. Maintenant on en a 4. Habituellement on en avait 3.
Oui.
On était habitué à avoir 3, à avoir Ajaccio et j'en oublie un. Ajaccio et Clermont.
Clermont qui a été battu ce week-end aussi sur sa pelouse.
Oui, voilà. Donc Clermont a décroché, mais Lens aussi. Et du coup Lens se retrouve à devoir batailler. C'est vraiment la plus mauvaise opération de cette 26e journée du championnat de Ligue 2. Mais c'est la plus mauvaise OP pour Lens.
On voit que c'est un marathon, parce que là, c'est Lorient qui est le plus régulier, mais c'est vrai que Lens, on les voyait presque
déjà
arrivés,
en Ligue 1,
c'est long,
c'est
une saison, c'est très long, et c'est pour ça on va parler d'une équipe là dans quelques instants, après dans 3-4 minutes, pour qui ce n'est peut-être pas tout à fait terminé, mais en tout cas...
Pour Guingamp.
Pourquoi pas, je laissais le suspense, mais en tout cas, voilà, les Lorientais ont quand même un matelas assez intéressant.
Et puis ce week-end, alors permet de ne plus compter 6 points sur la 3ème place, mais 7. Les Lorientais, Vincent Le Goff, d'ailleurs, est revenu sur ce classement. Quel regard ils ont justement sur ce classement, les Lorientais? Voici la réponse de Vincent Le Goff.
Est-ce qu'on regarde le classement? Oui, forcément, mais on ne s'y attache pas. Nous, on se concentre sur nous. Voilà, si on commence à regarder et à décortiquer tous les résultats maintenant, on va passer notre temps à se prendre la tête et à faire des suppositions. Donc non, ça c'est votre travail, c'est pas le nôtre. Nous, on se concentre sur le terrain et on veut prendre beaucoup de points jusqu'à la fin.
Ouais, c'est sûr. Enfin, les points pris ne sont plus à prendre pour Exactement. Lorient. C'est vrai que bon, on a du mal à imaginer que Lorient ne puisse pas monter, hein, quand même.
Oui, bon, disons que ce serait
même
ce serait
pour Lens. Je pense que Lens reste quand même dans les gros favoris, même s'ils ont un petit coup de moins bien. Mais je pense que ils vont s'y remettre. Hein, ils vont recravacher. Et je pense que Lens devrait revenir à la 2ème place dans quelques jours ou quelques semaines.
On le disait, je crois que c'était à la fin de l'année civile que quand on voyait Lorient et Lens en haut, on se disait. Les deux équipes ne vont pas s'effondrer. Il y en aura peut-être une. C'est peut-être Lens qui est en train de s'effondrer.
Ouais, peut-être. Il y a encore beaucoup de temps.
Alors, ces dernières saisons, il y avait des clubs qui trustaient le haut du tableau pendant 6 mois.
Et qui c'était le cas de Lorient.
Lorient,
la dernière saison, c'était ça. Brest également. Les premières années furent Lens, c'était ça aussi à Brest. Bon, pourquoi pas. Alors, ce qui vient en plus corroborer ce que vous dites, Pierre, c'est que Ajaccio, Troyes, Clermont, c'est des équipes qui, on le disait, pouvaient perdre un petit peu n'importe quand, parfois, contre tout type d'adversaires, ce que ne faisaient pas Lorient et Lens, qui étaient intraitables face aux équipes, notamment de la deuxième partie de tableau. Or, là, Lens commence à entrer aussi dans cette spirale de perdre contre des équipes sans doute moins pourtant dangereuses que certaines. On le voit avec cette défaite contre Caen 4-1 à domicile, hein. C'est quand même pas rien.
Ouais, voilà. Le prochain match pour Lens, je pense, nous donnera une idée de ce qui va se passer pour les...
Pour Paris FC, hein, les Lensois, je crois.
Pour les Lensois, parce que les Lensois se déplacent au Paris FC, un club en difficulté aussi dans ce championnat.
Qui va mieux quand même.
Qui va mieux, mais bon, j'ai pas le classement sous les yeux, mais bon, le Paris FC reste à la limite de la relégation. Ça reste un club en grosse difficulté.
17e,
voilà. Si Lens fait quelque chose, si Lens gagne à Paris FC, je pense que même si Lens reste 3e, Lens aura de bons espoirs de revenir dans le top 2. Maintenant, c'est vrai qu'en cas de défaite contre le Paris FC, ça voudrait dire quelque chose. Là, je pense que vraiment, les Lensois ont des soucis à se faire.
Le Paris FC qui vient de battre Le Havre et Clermont. Ouais. Donc c'est une équipe qui retrouve la forme.
Ah, mais il y a des choses incroyables. Dans ce championnat, c'est très, très difficile de faire des pronostics. Ah, ouais. Ouais, parce que la victoire de Paris FC, on ne s'y attendait pas non plus.
Un petit mot, puisqu'on parle de classement, juste avant la pause, parce qu'on parlait donc de Guingamp qui revient un petit peu, là, qui n'est plus, entre guillemets, qu'à 5 points du 5e après les résultats. Écoutez le son numéro 11, Dominique. C'est Sylvain Didot. On lui a posé la question, lui a appris déjà vendredi soir que Le Havre avait perdu et donc que Guingamp passait 6e, son meilleur classement de la saison. Mais écoutez bien Sylvain Didot, lui il n'est pas trop focalisé sur le classement.
Vu que Le Havre avait perdu, tu regardais le classement?
Non, je n'ai pas encore regardé. Non, ça me... parce que ça... Je regarderai ça tout à l'heure, maintenant vous allez me le dire, mais non, de ne pas avoir pris les 3 points, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de nous. C'est d'abord à nous de faire en sorte de prendre tout ce qu'il y a à prendre et, avant de regarder les autres. Faut pas compter sur les faux pas. Je pense qu'il faut vraiment compter sur nous-mêmes pour reprendre les points de retard. Et sur ces 10 premières minutes-là, on a fait en sorte de leur laisser penser qu'ils pouvaient mener. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est dommage, c'est vraiment à retenir parce que je pense qu'on a pris le dessus après et en étant un petit peu plus juste, je pense qu'on pouvait l'emporter quand même.
La transition est déjà toute faite avec l'En Avant Guingamp qu'on retrouve dans un instant sur Radio Bonheur pour la suite du magazine des déchaînés du football.
Partout, où que vous soyez, écoutez Radio Bonheur grâce à votre smartphone. Téléchargez gratuitement l'application Radio Bonheur sur Google Play ou Apple Store.
Youpi, top, super génial, 150 euros.
Bah chérie, t'as gagné à la loterie?
Non, j'ai juste économisé 150 euros. En ce moment, dans les centres auto Best Drive, ce sont les bestes affaires. Tu économises jusqu'à 150 euros sur l'achat de pneus Continental. Bah, tu vas où?
Chez Best Drive!
Offre valable du 17 février au 31 mars 2020. Modalité sur bestdrive.fr. Best signifie meilleur.
Sueur nocturne, bouffée de chaleur, de nombreux déséquilibres touchent les femmes à la ménopause. Manae, la solution d'origine naturelle sans hormones pour se sentir bien. Retrouvez nos solutions Manae dédiées aux femmes, ménopause, minceur, capillaire, en pharmacie et parapharmacie. Manae, source naturelle de féminité. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés sucrés.
C'est le
Leclerc Live!
Boire un verre de jus de fruits équivaudrait à une portion des 5 fruits et légumes recommandés par jour.
Donc pour le jus multifruits, on multiplie par le nombre de fruits?
Non, pas du tout. Mais du 25 au 29 février chez Leclerc, pour l'achat de 2 bouteilles de Joker, le pur jus multifruits du matin, de 2 litres chacune, la troisième est offerte.
Ah, je savais bien qu'il y avait une histoire de multiplication.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus.
Deezer présente Deezer Premium.
Le truc quand t'as Deezer, c'est que tu ne comprends pas ceux qui l'ont pas encore. Il y a ceux qui écoutent du son sur un site de vidéo.
Ouais, la qualité est pas ouf, mais ça passe.
Les férus de vinyle.
J'ai tous les 33 de Michael, par contre, ça prend un peu de place.
Et les inconditionnels du CD.
Attends, c'est trois fois rien, il y a juste une petite poussière là.
Bah alors, simplifiez-vous la vie. Avec Deezer Premium, écoutez toutes les musiques que vous voulez, quand vous voulez. En ce moment, 3 mois offerts. Puis 9,99€ par mois sans engagement. Rendez-vous sur Deezer.com. Deezer, le streaming français.
Bienvenue en Bourgogne, willkommen in Bourgogne. Vous pouvez déjà apercevoir les premiers champs de vigne avec au milieu son fameux bœuf, le bœuf bourguignon.
En ce moment, chez Courtepaille, les plats typiquement français sont à l'honneur. Bœuf origine France façon bourguignon, saucisses de Toulouse aux lentilles vertes du Berry IGP, crêpes Suzette. Venez savourer les spécialités que le monde nous envie chez Courtepaille. Dans la limite des stocks disponibles, pour votre santé, évitez de grignoter.
Nous sommes les parieurs. Notre passion, on la vit ensemble. Match après match, on prévoit, on prédit, on espère, on vibre. Et ce qu'on aime, c'est toucher le pactole. C'est ça notre match, c'est ça le pari. Ce samedi, tentez de remporter le super pactole Lotofoot de 2 millions d'euros. Préparez dès maintenant votre grille sur l'appli Parion Sport Point de Vente. Montant à partager au rang 1 Lotofoot 15.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le dernier match de cette 26e journée du championnat de Ligue 2, ce sera ce soir à 20h45. 3 rencontrera Auxerre. Vendredi dernier, c'était aussi la 26e journée du championnat de Ligue 2. Et si Lorient a gagné pour Guingamp, ça a été un peu plus difficile contre une équipe moyenne de ce championnat de Ligue 2, contre Sochaux. Des Guingampais qui ont eu du mal quand même, hein, à tirer au but, à se créer beaucoup d'occasions. Et surtout une première mi-temps difficile pour Guingamp. Finalement, ça se solde sur un score logique de parité. Un but partout entre Guingamp et Sochaux.
Mais surtout le premier quart d'heure qui a été terrible pour Guingamp, parce qu'il y a eu 2-3 incursions sochaliennes dans la surface de Guingamp. Sur la troisième, il y a eu le but de Livolan. Sinon, à part ça, il n'y a pas eu beaucoup de danger sur le but de Caillard, qui a fait une parade en fin de match. Mais voilà, Guingamp a manqué son début de rencontre. Ça lui a mis un handicap tout de suite et il n'a pas eu toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire basculer.
En première mi-temps, ouais. Ça a été complètement, enfin, ça a été pour moi très difficile.
À partir de la demi-heure, ça a été mieux, mais ouais. Le mal était fait pour la première période. Alors, on voulait vous proposer un résumé de ce Guingamp-Sochaux. Le problème, c'est qu'il y a eu très peu d'occasions. J'ai regardé le résumé vidéo avant.
Il y a eu combien de tirs cadrés pour Guingamp dans ce match? Ça a été une misère.
Il y a eu des frappes de loin en première période qui étaient assez dangereuses, mais
ça a été triste quand même, hein, pour Guingamp.
Il y a une de Mélo notamment.
Une de Mélo, il y en a une de Piri aussi.
Ouais, on s'en souvient parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup.
Hein. Oui, non, je le dirais 3 ou 4. 5. Ouais. 5 tirs cadrés sur 11 et Sochaux, 6 tirs de but. Et sur leurs 6 tirs.
6 tirs de cadrés.
Ouais. De cadrés.
Hein. Oui, enfin, Sochaux avait beaucoup moins la balle. Ce qu'on peut.
68% pour Guingamp.
Ouais, le sentiment, surtout, c'est un sentiment de frustration parce que Guingamp a eu très souvent le ballon, notamment en deuxième période. Mais pour autant, on sentait qu'ils n'étaient pas capables d'aller jusqu'au bout, qu'ils aient la possession de balle.
Le problème, Guingamp a laissé Sochaux s'installer dans le meilleur scénario possible, c'est-à-dire marquer, défendre, casser le rythme avec des fautes obtenues, des
joueurs
qui restaient
par terre.
J'ai voulu faire une photo un moment après un coup franc, il y avait 3 Sochaliens par terre. J'avais vu 3 qui étaient venus à Guingamp, il y avait eu 3 joueurs par terre aussi, 3 qui menaient 1-0. Voilà, c'est ce genre de match qu'il faut savoir faire basculer pour Guingamp, parce que vous vous retrouvez avec un handicap, les équipes se regroupent derrière et il n'y a pas forcément toutes les capacités techniques pour en avant à faire des différences. Réécoutez donc les 2 buts de ce match, celui de Livolan et celui de Gomis.
la surface, Diop qui centre, Sorbon qui renvoie, Livolan qui récupère, frappe de Livolan, but ! But de Jérémy Livolan, le joueur prêté par Guingamp, alors qu'au départ de l'action, il y avait peut-être, voire sans doute, une faute sur Eladjiba, elle n'a pas été signalée. Eladjiba qui est resté au sol pendant quasiment toute l'action, les Sochaliens qui ont continué de jouer, ils ont amené le ballon dans la surface, c'est Livolan qui n'avait pas beaucoup d'espace pour pouvoir jouer ce coup après le centre d'Ourega remis en retrait par Diop, et bien c'est lui qui permet à Sochaux de mener un but à zéro. Oh Gomis, il y a dit Gomis, qu'est-ce que tu nous as fait Yannick Gomis, tout seul pour se venger de son occasion complètement vendangée contre Nancy le week-end dernier. Il a gratté le ballon tout seul, il s'est retrouvé dans l'axe de la surface de réparation et on a cru trois fois qu'il avait perdu le ballon, mais non, il a déclenché une frappe qui est allée se loger dans le petit filet. Un but partout entre Guingamp et Sochaux et cinquième but cette saison de Yannick Gomis.
Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique.
On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59€ par mois, hors location de batterie. Tout le monde va passer à l'électrique.
Zoé Life, 3 ans, 25 000 km, LLD, 37 mois, premier loyer de 3 100€ ramené à 600€ après déduction prime à la conversion. Si Accordiac offre sous condition de mise au rebut valable jusqu'au 30 juin 2020, voir Renault.fr.
Les déchaînés du football en direct ce soir sur Radio Bonheur. Guingamp a donc fait match nul, un but partout contre Sochaux ce week-end. C'est aussi le premier but de Gomis qui se rachète à un Roudourou. Petit peu. À oui. Roudourou, qui se rachète un petit peu après une occasion monstrueuse qu'il a manquée.
Oui, et puis au final, ça se dit pas. Finalement, oui. Il vaut mieux qu'il ait marqué celui-là plutôt que celui à Nancy, parce qu'à Nancy, ça aurait fait 2-0. Donc bon, 1-0, 2-0, mais là, ça vaut un point pour Guingamp. Et quel but, surtout Gaëtan. Moi, je le disais dans le commentaire, j'ai cru trois fois qu'il avait perdu le ballon.
Ah ouais, moi j'ai regardé le résumé évidemment après ce match et c'est vrai qu'on le voit et plus ça va, plus il se décale vers la droite en plus. Ouais. Ça se décale et il se retrouve finalement dans la meilleure position possible parce que sur les trois fois où on a l'impression qu'il va perdre le ballon, c'est pour arriver à la meilleure position.
C'est surtout ouais. Ça. On n'a pas l'impression
que la fin est magnifique.
Elle part petit filet, il se retrouve plein axe en fin de compte pour finir sa petite chevauchée et la frappe petit filet, voilà, imparable.
Le gardien, tout le monde est surpris.
Ah, parce qu'il est masqué en plus, le gardien, il y a beaucoup de monde. Hein.
On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une frappe de Gomis et c'est ce qui permet à Gomis de marquer son premier but au Roudourou.
Après, Gomis, c'est pas n'importe qui non plus. L'année dernière, on rappelle 17 buts et 8 passes décisives en Ligue 2. Donc ça resitue un petit peu le bonhomme dans la hiérarchie de ce championnat. Mais c'est vrai qu'il courait après ce premier but à Roudourou. Et vous allez écouter maintenant son soulagement.
Effectivement, j'ai tellement cherché, mais je suis très content honnêtement. Et vous savez, le foot, il y a 4-5 matchs en arrière, je n'arrivais même pas à me procurer des occasions. Mais aujourd'hui, je me sens bien physiquement et sur le plan moral. J'espère que c'est de bonne augure la suite.
Ouais, avec cette période de 5 matchs sans défaite pour Guingamp, ça fait partie des hommes qui prennent confiance dans cette équipe.
Qui doivent prendre confiance parce que Gomis, c'est le dernier attaquant professionnel valide. Alors après, il peut y avoir des jeunes. On a vu le petit A qui a débuté avec Guingamp en Ligue 2.
Mais pas de blessure pour Gomis.
Non,
surtout pas.
Non, parce que là, ça va être compliqué. Non, mais c'est une vraie valeur sûre de Ligue 2. Guingamp a fait un gros effort. D'ailleurs, c'est Patrice Lair, hein, je crois, qui avait vraiment insisté pour le prendre cet été. Il est arrivé pour 3 millions d'euros. Donc, c'est l'un des transferts les plus coûteux de l'histoire d'en avant. Donc, voilà. C'est vrai qu'il a été un petit peu dans l'ombre de Pierrot parce que Pierrot a tout de suite marqué très vite et beaucoup. Il y a eu aussi Rodelin, Mchangama qui ont porté cette équipe. Mais Gomis, oui, il doit avoir ce rôle. Et c'est très pour lui de marquer. On va vous proposer un petit extrait de l'interview, une petite minute que l'on a faite donc vendredi, où il revient un peu sur ses doutes et puis sur ce but donc qu'il a délivré, et notamment il nous révèle qu'il avait repensé un petit peu à son occasion de Nancy pendant le match vendredi.
Le fait d'être à droite devant le but, car ça m'a manqué depuis un certain temps, j'arrivais à louper des occasions faciles. C'est là certes Je me suis bien battu sur cette action, mais je sais que je peux en faire plus. Et j'espère que je peux m'appuyer sur ça pour avoir beaucoup plus de confiance pour les prochains matchs à venir.
Il y a une feinte de frappe quand même avant de tirer. C'est quoi? C'est instinctif? Comment tu prends cette décision?
Effectivement, parce que d'habitude, souvent on me le dit d'arrêter de jouer en de première intention. Et là, je l'ai senti venir très vite sur moi. Ben, après, j'ai eu la lucidité de faire un crochet et enchaîner. Mais c'est top et je suis très content, mais pour l'équipe, mais pour moi aussi.
À quel moment, est-ce qu'à un moment, tu as repensé à celle que tu as manquée à Nancy la semaine dernière?
Ouais, dès l'entame de match, je me suis dit, ben, aujourd'hui, concentré du début jusqu'à la fin. Comme ça, dès qu'il y aura une occasion, faudra être tueur pour l'équipe et c'est mon rôle. Et voilà, tant mieux.
Et après le but, tu y as repensé aussi?
Non, après, vous savez, je suis professionnel. Le match, il était à oublier. Le match dernier, on a gagné, tant mieux. Mais mes performances individuelles ne peuvent pas déteindre sur le groupe. Et individuellement, et c'est pour ça que je me suis concentré du début jusqu'à la fin. Certes, on aurait voulu gagner aujourd'hui, mais je ne peux pas parler que de moi parce qu'on a fait une belle prestation quand même.
Et match nul, un but partout.
Oui, Guingamp qui a su réagir dans ce match après un but de Jérémy Livolan. On l'avait senti venir, vous en premier, Gaëtan, c'est vrai. C'est le joueur qui est prêté par Guingamp depuis 2-3 ans, hein, je crois, Livolan.
Oui, c'est la troisième saison. Il avait été prêté en National à Boulogne-sur-Mer lors de la saison 2017-2018, l'année dernière en Ligue 2 à Châteauroux, et cette saison donc à Sochaux, en Ligue 2 encore.
Et c'était, je crois, la première fois qu'il venait en adversaire à Roudourou. Il est revenu sur son retour après le match. Jérémy Livolan, on l'écoute.
Moi, je l'ai bien vécu parce que, bien sûr, j'avais toute ma famille, mes amis, très très proches. Donc, c'était par rapport à ça. Et puis, je connais encore quelques joueurs quand même. C'est très très émouvant de retrouver ce Roudourou qui était où il y avait beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que ça m'a fait vraiment chaud au cœur.
Tu l'avais imaginé marqué ici?
Pas du tout. Je m'imaginais pas du tout marqué. Franchement, avant le match, je me suis pas posé mes questions. Je me suis dit, ça marche comme un autre, mais sauf qu'il y aura ma famille. Ma famille sera présente, donc ça me fait. C'était une motivation en plus.
Avec une petite ovation du COP, on imagine que tu retiens ça aussi à la fin.
Oui, bien sûr, je retiens ça. Je les remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Je suis un enfant d'ici. Mais voilà, maintenant, il faut voir par rapport à la saison prochaine ce que je vais faire.
À voir si Jérémy Livolan peut
réintégrer
du temps de jeu à Guingamp. Il a joué un ou deux matchs professionnels, je crois seulement.
On s'en souvient pour
à Guingamp.
Le match à Bordeaux en 2015, son premier, mais sinon.
Un match de Ligue 1 et non, en Coupe, j'en ai pas de souvenir
de Livolan à Guingamp.
Peut-être bientôt, parce que c'est vrai qu'on a c'est un autre joueur. Je l'avais déjà vu sur des matchs amicaux. Celui qui est venu là à Roudourou, il a montré des progrès. Je ne sais pas si vous l'aviez vu contre Lorient, Gaëtan.
Il avait fait un bout de match à l'aller, je crois, Jérémy Livolan. Mais oui, c'est techniquement déjà, c'est un joueur qui est quand même largement au niveau. Je l'avais vu surtout en national il y a 2 ans. Oui. Et j'avais déjà vu une certaine progression, mais ça restait en national. C'était pas par. Enfin, fallait voir aussi sur la Ligue 2 où est Guingamp maintenant. Je ne l'ai pas vu beaucoup encore en Ligue 2, mais oui, c'est un joueur qui effectivement a une certaine qualité, surtout technique, indéniable. Alors je ne sais pas combien de temps par contre il lui reste de contrat à Guingamp.
Je n'ai pas l'information. Un ou deux ans je pense, mais il reviendra à Guingamp, en tout cas à la fin de saison.
Normalement,
c'est
oui,
pas
oui.
Une hypothèse qu'il écarte. En tout cas, on lui a posé la question vendredi. C'est pas écarté,
on verra.
Il a 22 ans, donc toute sa carrière encore devant lui. Jérémy Livolan, ça sera peut-être un des dossiers chauds de l'été. Guingamp, on revient une dernière fois sur ce match avec donc ce début difficile. Dominique, vous en parliez, notamment ce premier quart d'heure complètement loupé. Est-ce qu'il y a eu des mots à la mi-temps? Réponse de Sylvain Didot, parce qu'on a quand même vu une équipe Guingampé, ce qui a mis plus d'agressivité au retour des vestiaires.
Oui, on corrige toujours certaines choses, certains déplacements pour aller un peu plus clairement chez eux, de façon plus coordonnée aussi. Mais je pense que ça, c'était déjà le cas les 20 dernières minutes de la première mi-temps. Maintenant, après, il y a eu des petits ajustements, on va dire, et des changements aussi en cours de seconde qui nous amènent à faire, je pense, une bonne deuxième mi-temps. Maintenant, c'est pas suffisant si on veut rattraper le haut de tableau. Il aurait fallu prendre les 3 points ce soir quand même.
Ouais, ça aurait été mieux évidemment, mais Guingamp grignote quand même une place au classement parce que Le Havre a perdu à domicile. Et de la secousse, Guingamp se retrouve sixième. Bon, avec en point de mire les 44 points de 3 ou de Clermont. De Clermont, c'est sûr, peut-être un peu plus pour 3. En tout cas, on est à 5 points de la cinquième place visée par les Guingampais, parce que les Guingampais veulent jouer cette mini-coupe en fin de championnat, c'est-à-dire pouvoir peut-être jouer l'accession.
Et ce qui est fou, c'est que si Guingamp avait gagné, Guingamp serait revenu à 6 points de Lens, ce qui paraissait complètement farfelu il y a quelques semaines de cela.
Oui, bah d'autant plus que Lens était champion d'automne, hein, 19e journée, Lens était premier.
Champion d'automne, il vous reste là, mon cher Gaëtan. Hein.
Parce que je me dis que je préfère être dans la situation des Lorientais maintenant que des Lensois.
En tout cas, prochain match pour Guingamp, pour bonifier ce match nul contre des équipes de deuxième partie de tableau, deux déplacements de suite, au Mans et à Rodez, réception de Niort ensuite, avant un vrai test juste avant la trêve internationale, déplacement à Clermont pour les Guingampais. Ce match-là, il faudra l'aborder, peut-être se rapprocher à 2-3 points de Clermont pour pouvoir peut-être passer devant en cas de victoire. Ça pourrait offrir.
Pour prendre des points avant déjà.
Oui,
déjà en commençant par Le Mans.
Quand vous avez du retard comme Guingamp, il faut gagner. Vous allez beaucoup plus vite, évidemment. C'est une palissade de le dire, en gagnant plutôt qu'en faisant des matchs nuls. Mais dans une série positive, ça peut arriver parfois d'avoir des matchs nuls. Dernier mot sur Guingamp, l'équipe A, parce qu'on parlera des jeunes juste après la pause. On vous en a parlé déjà. Si vous nous regardez sur la page Facebook des Déchaînés du Football, vous voyez le décor avec les maillots de Moustapha Diallo qui trône, qui orne le studio.
Ah oui.
On vous rappelle le podcast disponible, plus d'une heure d'interview avec Moustapha Diallo. Ça se passe sur le site internet de Radio Bonheur, www.radiobonheur.com, rubrique podcast, rubrique Guingamp classique. On vous propose un petit extrait de 30 secondes aujourd'hui où en fin d'interview on est revenu sur le club préféré de Moustapha Diallo. Écoutez, il se souvient très bien du club contre lequel il a le plus marqué en carrière.
Ça, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche.
Et tu sais contre quel club tu as le plus marqué de buts ?
Je sais, c'était contre Rennes.
Ouais, 4 buts contre Rennes.
Parce que j'aimais bien gagner contre Rennes, parce que je sais que quand je gagne contre Rennes, le président il est tellement content, il triple les primes, oui, 4 triple les primes. Quand je montais contre Rennes, je donnais à fond pour qu'on gagne. Parce que je savais que le président il est tellement content quand on gagne contre Rennes, il mettait de l'argent. Non, mais c'est vrai, c'est le derby, c'est comme si on est gagapé, c'est le derby, tu es concentré, tu es à fond et tout.
Voilà, Moustapha Diallo, et il y a beaucoup d'anecdotes, hein. Le Babybel, son déplacement à Arles-Avignon, sa bouderie aussi le jour de la finale, juste avant la finale de la Coupe de France 2014. On a vu la version de Jocelyn Gourvennec en décembre. Il y répond. On a eu de très bons retours. On remercie tous les messages qu'on a reçus sur Twitter, sur Facebook, les retours de cette interview. Et vous pouvez donc l'écouter quand vous voulez sur le site internet de Radio Bonheur, rubrique podcast, 19h40 ou 41 sur Radio Bonheur. On est dans les temps et on se retrouve juste après la pause avec l'équipe des jeunes de Guingamp qui a perdu malheureusement hier en Gambardella. On parlera aussi de Concarneau et de Saint-Brieuc.
Ouais, Saint-Brieuc en National 2 et ça leader. Va bien. Ça va bien pour leader. Saint-Brieuc, pour la première fois leader. Le magazine des déchaînés du football, 19h42. On a fermé la page Ligue 2, mais on continue de parler pendant quelques secondes encore de Guingamp et notamment des jeunes de Guingamp éliminés en Gambardella.
Oui, les U18 de Marcel Calongi qui ont été éliminés par Dijon hier après-midi à l'Académie. Ils avaient éliminé la TA Rennes, Vitré et Hasbrouck lors des trois tours précédents. Et en huitième de finale, ils se sont inclinés au tir au but. C'est Dijon qui a ouvert le score en deuxième mi-temps. Matteo Didot, le fils de Sylvain Didot, a égalisé à la 89e minute sur penalty. Et puis au tir au but, eh bien c'est Dijon qui a raflé la mise. Alors, il n'y a pas eu un seul arrêt de gardien, c'est juste Wesley Loubaki, le Guingamp qui a frappé sur la barre le dernier tir au but guingampais. Victoire 7 tirs au but à 6 des Dijonais. On écoute tout de suite l'entraîneur guingampais Marcel Calongi qui revient sur cette séance.
Oui, on les a travaillés quotidiennement, c'est des choses qu'on travaille, mais après c'est ce même joueur là a marqué avant le tour précédent, donc ça arrive, c'est la loterie, donc c'est comme ça.
Ouais, c'est. Alors, il parle
c'est
de loterie.
C'est pas la loterie. Voilà, je vais faire mon vieux grognon. C'est pas la loterie.
C'est un exercice qui se travaille.
En même temps, le dernier pénalty sur la transversale.
C'est parce que vous manquez votre geste technique.
C'est pas de chance quand même.
Ouais, c'est pas. Oui,
c'est
voilà. Il n'y a pas de réussite, ça c'est sûr. Mais voilà. Bon, c'est en tout cas une aventure qui s'arrête là, au huitième de finale, alors que les Guingampais avaient l'opportunité d'égaler leurs aînés de 1970, 2011, 2015, qui sont allés jusqu'en quart de finale. Le meilleur parcours de Guingamp dans cette
2015 aussi.
Oui, 2015, défaite à Sochaux contre les Sochaliens, Marcus Thuram notamment, qui avait gagné l'épreuve d'ailleurs.
Marqué en finale, oui.
Guingamp a à chaque fois perdu en quart de finale contre le vainqueur. En 2011, c'était Monaco, 2015 Sochaux, 1970 Saint-Étienne. Bon, là c'est en huitième de finale, mais
dommage pour Dijon, il a gagné.
Dommage pour Dijon. En tout cas, Marcel Calongi, l'entraîneur de Guingamp, est tout de même fier du parcours réalisé par ces jeunes joueurs.
Je suis content de l'image qu'on a montrée sur le terrain. On a montré les valeurs du club, le courage, l'abnégation, l'union, être solidaire jusqu'au bout. La première et dernière minute, on a lutté, quitte que coûte, pour représenter l'image du club. Les garçons ont fait un joli parcours, donc je suis fier d'eux.
Et en plus, ils font une super saison, les jeunes.
Oui, ils sont actuellement 3e du championnat. Alors, il y a le SCO d'Angers qui survole le groupe. Ouais. Le FC Nantes, 2e. Et Guingamp, qui est 3e, à la lutte avec Nantes pour la 2e place, qui serait synonyme de play-off en fin de saison. La 2e place, play-off pour remporter ce championnat U19.
Toutes les équipes de Guingamp vont jouer les play-offs.
Oui, voilà. Pour remporter le championnat U19 national. Transition donc tout trouvé pour le championnat 2 national, cette fois, où se trouve l'US Concarneau, bien sûr. Concarneau qui jouait
troisième division.
Concarneau qui a gagné 1-0 à Quevilly-Rouen Métropole vendredi grâce au but de l'ancien Lorientais Valentin Lavigne à la 89e minute. Concarneau qui s'est donné de l'air, et je crois qu'on a le capitaine concarnois Guillaume Janez avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous.
Alors, une deuxième victoire consécutive pour Concarneau en championnat après le succès face à Lyon-Duchère la semaine précédente. Ça vous permet de respirer un petit peu ces deux victoires?
Oui, en effet, ouais. On sait qu'en national, un peu comme dans tous les championnats, le fait d'enchaîner les victoires, ça nous fait faire des grands bonds en avant. Là, Lyon-la-Duchère, on a réussi une belle performance et il fallait confirmer contre Quevilly. Le coach avait dit que c'était une journée d'opportunité parce qu'on avait pas mal d'adversaires qui s'affrontaient, et puis nous-mêmes, si on gagnait contre Quevilly, ça nous permettait de passer devant eux. Donc après cette journée, on a dû passer devant 3 ou 4 équipes, donc c'est vrai que ça fait un peu de bien de respirer en ce moment. Ouais.
Oui, vous voilà 11e avec 25 points, soit 5 longueurs d'avance sur Le Puy, le premier relégable. Deux victoires qui arrivent avec le nouvel entraîneur, en tout cas pour l'instant, Pascal Laguillé, suite au départ de Benoît Coé. En quoi les idées de jeu prônées par Pascal Laguillé sont-elles différentes de ce que vous aviez avant dans ce début de saison?
Je pense qu'on s'applique à faire peut-être un jeu un peu plus simple, entre guillemets. Tout le monde défend, la perte du ballon, on essaye d'avoir un bloc qui se resserre très vite et de jouer peut-être un peu plus sur les transitions, c'est-à-dire qu'on essaye de récupérer le ballon assez haut dans le camp adverse, et puis après de se projeter très vite, et surtout d'essayer de terminer toutes nos actions par des centres ou des frappes, quelque chose de dangereux.
Alors le prochain match, c'est à nouveau un concurrent direct qui va se présenter à vous. Béziers sera en déplacement au stade Guy Piriou vendredi soir. Un autre concurrent direct, ça signifie d'enchaîner obligatoirement les bons résultats pour se mettre en bonne posture?
Bah oui, c'est vrai que là, de toute façon, dans notre position, si on veut réussir à se maintenir, il faut gagner des matchs. En national, il faut au moins une dizaine de victoires pour gagner, donc pour se maintenir. Donc là, on en est qu'à 6, il reste 11 journées, donc voilà, on a plus trop le temps entre guillemets, donc il faut réussir à enchaîner, même si gagner 3 matchs d'affilée, ça nous a pas, c'est très rare qu'on arrive à enchaîner, mais voilà, on espère que devant notre public et qu'on arrivera à confirmer cette belle passe pour enchaîner 3 victoires.
Oui, d'autant plus qu'après, il va y avoir des clients du haut de tableau. Il y aura le Red Star, il y aura Bourg-en-Bresse, Dunkerque, Pau, Villefranche. Il y aura aussi Toulon. Entre-temps, ce sera aussi un match à ne pas manquer, sans doute. Une équipe toulonnaise en difficulté, mais qui a décroché sa première victoire ce week-end.
Bah oui, c'est vrai qu'après, on regarde, là, tout le monde a un peu son regain d'énergie en ce moment. C'est un peu les dernières forces qui sont jetées dans la bataille pour les équipes qui jouent le maintien, comme pour les équipes qui jouent la montée. Donc, c'est vrai que cette période-là, de février, mars en national, c'est là qu'on voit si soit on va jouer le haut du classement, soit on va jouer le bas, ou alors il y en a qui vont terminer dans le ventre mou. Mais c'est vrai que là, toutes les équipes essayent de s'accrocher pour aller jouer, comme je dis, soit la montée, soit la descente. Donc là, nous, on sait qu'on reçoit quand même le Gazélec, on va recevoir une équipe comme Créteil, comme Béziers. Voilà, on a quelques matchs à la maison qui vont être intéressants pour nous, mais au-delà de ça, on a aussi des grosses cylindrées à aller jouer. Donc voilà, on va essayer de prendre des points quand c'est possible. Et puis même si on doit à l'extérieur prendre des petits points chez les gros, on le fera avec plaisir.
Ouais, il reste 11 matchs pour ça, 11 matchs pour sauver sa peau en national avec Pascal Laguiller qui est désormais l'entraîneur, qui a déjà été entraîneur de Concarneau, qui a été aussi adjoint de Nicolas Cloarec. Est-ce que la suite s'inscrit avec Pascal Laguiller visiblement?
Bah, pour l'instant oui, au moins pour le reste de la saison, je pense, hein. Donc nous maintenant on n'a pas toutes les infos, mais bon, je pense que l'intérim va quand même durer, et puis au moins si ça se passe bien, ça lui donnera du crédit pour lui. Donc voilà, maintenant on essaye de s'appliquer à faire ce qu'il nous demande avec sa mentalité. Donc maintenant si ça doit se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la saison, ce sera tant mieux, ouais.
Eh bien, espérons-le, Guillaume Jeannès pour l'US Concarneau. On rappelle que c'est la quatrième saison consécutive de Concarneau en national et qu'il y a la possibilité, bien sûr, d'aller en chercher une cinquième. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.
Bonsoir. Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci. Au revoir.
Bonjour, c'est Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. J'ai deux mots à vous dire. Deux mots à vous dire. En ce moment, chez Feu Vert, on fait coup double. Coup double. Un pneu acheté égale un pneu offert. Un pneu acheté égale un pneu offert. Oui, oui. Alors faites vite, faites vite. Ça ne se répétera pas de sitôt. Pas de sitôt. On la refait?
Non, c'est bon.
Ok, ok.
Offre valable sur une sélection de pneus et soumise à la pause. Voir conditions sur feuvert.fr.
Vous pensez qu'un SUV hybride n'offre qu'une faible autonomie? 1000 km sans recharge, c'est possible. Grâce à ses deux moteurs électriques, le Honda CR-V hybride peut parcourir jusqu'à 1000 km avec un plein. Pas besoin de le brancher, il se recharge en roulant. Cherchez Honda CR-V hybride sur Internet.
CR-V hybride à partir de 32 900 euros au lieu de 34 900 euros après déduction d'une prime de 2000 euros pour l'achat d'un CR-V hybride neuf. Offre particulier non cumulable, voire conditions sur Honda.fr. Autonomie en cycle mixte NEDC corrélée d'un CR-V hybride confort 1075 km.
Merci Loïc. Je m'appelle Luna et je veux te remercier. Merci d'avoir insisté pour que je mette ma ceinture avant de démarrer ta voiture pour rejoindre Beauvais en covoiturage. Sinon, ma tête aurait violemment heurté ton pare-brise quand tu as freiné brusquement devant ce chevreuil. J'aurais eu un traumatisme crânien. J'en aurais gardé les séquelles toute ma vie. Alors merci Loïc de me permettre de finir d'écrire mon premier roman.
Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie.
Sécurité routière. Vivre. Ensemble.
Deezer présente Deezer Premium.
Le truc quand t'as Deezer, c'est que tu ne comprends pas ceux qui l'ont pas encore. Il y a ceux qui écoutent du son sur un site de vidéo.
Ouais, la qualité est pas ouf, mais ça passe.
Les férus de vinyle.
J'ai tous les 33 de Michael, par contre, ça prend un peu de place.
Et les inconditionnels du CD.
Attends, c'est trois fois rien, il y a juste une petite poussière là.
Bah alors, simplifiez-vous la vie. Avec Deezer Premium, écoutez toutes les musiques que vous voulez, quand vous voulez. En ce moment, 3 mois offerts. Puis 9,99€ par mois sans engagement. Rendez-vous sur Deezer.com. Deezer, le streaming français.
Bienvenue à Toulouse, welcome in Toulouse. À votre droite, sa célèbre place, à gauche, sa basilique et au loin, sa fameuse saucisse.
En ce moment, chez Courtepaille, les plats typiquement français sont à l'honneur. Saucisse de Toulouse aux lentilles vertes du Berry IGP, bœuf origine France façon bourguignon, crêpes Suzette. Venez savourer les spécialités que le monde nous envie chez Courtepaille, dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous savez peut-être que chez Total Direct Energy, notre énergie est jusqu'à 10% moins chère. Et pourtant, vous ne changez pas de fournisseur, parce que vous avez autre chose à faire. Et on vous comprend.
Mais c'est dommage, quand on sait qu'en ce moment, vos deux premiers mois d'abonnement sont offerts. Vraiment dommage.
Ne remettez pas à demain les économies que vous pouvez faire aujourd'hui. Jusqu'au 9 mars chez Total Direct Énergie, profitez de deux mois d'abonnement offert remboursé sur facture. Rejoignez-nous au 3099 ou sur totaldirectenergie.com.
Service et appel gratuit. Remise jusqu'à 10% sur le prix du kilowattheure hors taxe fixé par l'État hors abonnement. Conditions sur site. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
Chérie, aujourd'hui on m'a offert 100 euros.
Bah pourquoi ?
Ce matin en allant au travail, j'ai pris un caillou dans le pare-brise.
Quoi ?
J'ai emmené la voiture chez Rapid Pare-brise et ils s'occupent de tout. Ils prennent en charge ta franchise jusqu'à 100 euros. Et si tu n'en as pas, ils t'offrent 100 euros en bon d'achat.
Ah oui.
Ils sont trop forts chez Rapid Pare-brise.
J'ai compris, Maryse.
Voir conditions sur rapidparebrise.fr.
Les déchaînés du football, 19h53, c'est la dernière ligne droite et on parle des clubs amateurs après le championnat de national. Alors on hésite toujours, championnat de national, on ne sait jamais si ce sont des pros ou pas. Officiellement, non, mais on est quand même pas loin, bien
on s'en
souvent.
Rapproche, ouais.
Bon, ouais, y a quand même quelques fois des clubs pros qui évoluent en national. On n'en est plus très loin et justement, c'est peut-être ce que cible un jour Saint-Brieuc, parce que Saint-Brieuc pourrait terminer premier de ce championnat de National 2 et donc rejoindre, pourquoi pas, Concarneau en National, en 3e division, on le rappelle, la saison prochaine. Ce serait une belle performance pour Saint-Brieuc qui, depuis son retour en 4e division, c'est-à-dire actuellement en National 2, finit systématiquement 2e. Ce serait dommage pour la 3e année consécutive de terminer 2e de ce championnat quand on sait que seul le premier accède au niveau supérieur à la 3e division au championnat national.
Et nous avons un des artisans de la belle forme briochine avec nous au téléphone. Bonsoir Johan Leméoté.
Bonsoir.
Alors vous avez marqué le premier but de la victoire sur la pelouse de la réserve de Lorient, 3-0 ce week-end. Romy l'a marqué 4 minutes après à la 39e et Cagnon a marqué ensuite contre son camp. 3-0, c'est bien de gagner avec un petit peu de marge pour une fois.
Oui, c'est clair. On a fait un gros match. On avait à cœur de bonifier le résultat qu'on avait fait à domicile contre Wassel en gagnant à la dernière minute. Du coup, on avait à cœur de bien débuter le match parce que c'était ça notre problème. Enfin, c'est ça notre problème depuis le début de saison. On a tendance à mal entamer les matchs, donc du coup, on a tendance à prendre des buts et on court toujours après le score. Peut-être c'est l'histoire de notre saison, mais voilà, on a bien débuté. On a eu 3 minutes de flottement un peu, où Lorient aurait pu marquer, et puis voilà, j'ai marqué, Devon a ensuite marqué après, et puis on a mis 3e à la 60e minute, et puis voilà, le break était fait, c'était parfait.
Alors, la nouvelle du week-end, c'est que vous passez en tête, pour la première fois, me semble-t-il, cette saison, 2 points ouais. Devant Chartres, 4 points devant le FC Rouen, qui est en train d'enchaîner les mauvais résultats. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, Johan ?
Bah, on savait bien qu'ils avaient donc Chartres, ils allaient à Vannes et Rouen allait à Angers. On savait que c'était 2 gros déplacements et nous on allait à Lorient, c'était pareil. On avait à cœur de gagner le match parce que on sait jamais, on doutait que Vannes allait faire une performance et qu'on avait joué à Angers, on avait joué une belle équipe d'Angers, donc on sait que c'est très dur d'aller gagner là-bas. Donc on s'est dit si on prend les 3 points, déjà on reste dans la course. Et au final, quand on a su les résultats à la fin du match, bah, c'était que bénéfique pour nous. Et puis, voilà, on a une semaine de pause, là, et on reprend à domicile contre les Gobelins et continuer sur notre lancée.
Alors, vous étiez là aussi la saison dernière où vous aviez craqué en toute fin de championnat après avoir été leader plusieurs semaines. Maintenant que vous êtes leader, qu'est-ce qui est différent d'être dans la peau du chassé ?
Bon, après, franchement, pour moi, rien, parce que déjà l'année dernière, j'étais blessé 5 mois, donc quand ouais. Saint-Brieuc avait été leader, j'étais pas là. Et
c'est peut-être ce qui a manqué.
Fait leur grosse série de 11 matchs là, sans défaite, j'étais pas là non plus. Et non, moi, franchement, ça change rien, même pour l'équipe. Après, on a pris quand même en maturité, parce que c'était quand même des résultats que l'année dernière, à l'extérieur, comme ça, on avait du mal. À chaque fois qu'on avait la capacité ou. Allô.
Oui.
Vous m'entendez? Ouais.
Très bien.
Ouais. Non. Si. Donc, on avait la capacité de passer devant nos adversaires. On faisait un faux pas, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Là, on a gagné à l'extérieur. On va essayer de prendre les 3 points. Bah, c'est pas essayer. C'est être sûr de prendre les 3 points à domicile, j'espère. Et comme ça, on sera sûr d'être encore premier.
Il y aura une question de Gaëtan avec nous en studio.
Oui, bonsoir Johan. Quel regard vous portez sur votre saison personnelle avec le Stade Briochin?
Bah, pour l'instant, ça me va très bien. On est premier. Je marque des buts, je mets des passes dés. Voilà, c'est une belle saison pour moi. Après, pour que la saison soit vraiment parfaite, il faudrait la monter en National 1.
6 buts, c'est ça, cette saison ?
7.
Ah, 7. Ah, et notre site de statistiques est
6,
à 7
toutes compétitions confondues.
Non, 7 que en championnat.
7 plus 1 alors. Ah oui, c'est le site de statistiques qui n'est pas tout à fait à jour. Merci beaucoup, Johan Leméoté, d'avoir été avec nous. Et continuez comme ça.
Oui,
allez, je vous remercie.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonsoir.
De même, au revoir.
Merci, bonsoir. Allez, Saint-Brieuc, qui, on le rappelle, dans les années 90, évolué en Ligue 2, en deuxième division.
Bah avec Guingamp, 94-95, l'année où Guingamp monte pour la première fois en D1. Saint-Brieuc était là. Ils sont restés encore un ou deux ans, je crois, en D2. Malheureusement, ensuite, les difficultés que l'on connaît ont fait un petit peu mal au stade briochin.
Difficultés financières, oui, essentiellement.
Exactement. Un coup d'œil donc sur les résultats de cette très importante 20e journée de National 2. Rouen a été battu 2-0 sur la pelouse de la réserve du SCO d'Angers. Chartres a été battu à Vannes 3-2. Vannes qui avait encaissé le premier but. Rambaud à la 22e, égalisation une minute plus tard de Ben Amara. Diédry donne l'avantage à Vannes, troisième but de Rambaud, 3-1 pour l'équipe de Vannes. Et puis Nock à la 85e avait donné un petit peu d'espoir à Chartres, mais qui s'est donc incliné. Chartres qui tenait la dragée haute à Saint-Brieuc ces dernières semaines, et Chartres donc qui connaît un petit coup d'arrêt. Derby,
ouais, c'est assez quand même incroyable et imprévisible, hein, ce coup d'arrêt à la fois de Chartres et de Rouen. On se disait qu'un des deux clubs pouvait éventuellement avoir un petit coup de moins bien, un coup de mou, mais les deux simultanément, là, depuis le mois de janvier, c'est surprenant, et tant mieux, Saint-Brieuc réussit à en profiter.
Oui, et alors un petit peu plus bas au classement, Saint-Malo a gagné le derby de l'Ille-et-Vilaine contre Vitré à 1-0. Une belle performance parce que Saint-Malo était réduit à 10 dès la 20e minute. But, carton rouge pour Canguini, et but à la 86e sur pénalty de Saint-Malo, but de Créage. Mauvaise surprise par contre pour Guingamp qui a perdu à Mantes. Mantes, la lanterne rouge depuis des mois, qui a gagné enfin son premier match de championnat. But de Diallo pour Mantes sur pénalty, égalisation de Anne pour Guingamp sur pénalty aussi à la 82e, et Dembélé dans le temps additionnel a permis à Mantes donc de gagner. Au classement, Saint-Brieuc premier 43 points, deuxième Chartres 41, troisième Rouen 39, quatrième Granville 35, cinquième Vannes 34, Lorient 7e 30 points, 8e Saint-Malo 28, 11e Guingamp 23, premier relégable Vitré avec 17 points. Un match seulement de National 3 ce week-end, mon cher Gaëtan.
Oui, et Hergé Gaberic qui s'est incliné face à Fougères. 3-2, ouverture de score pourtant d'Hergé Gaberic grâce à Leroux, 18e sur pénalty. Atéba ensuite signe un doublé pour Fougères et mène 2-1. Leroux lui aussi s'offre un doublé, 84e 2-2. Et puis là aussi, dans le temps additionnel, eh bien, le Bihan offre la victoire au Fougères qui s'impose 3-2. Hergé Gaberic reste donc en bas de tableau.
Et on souhaite un bon anniversaire à l'entraîneur de Fougères, Pierre-Yves David, ancien joueur de Saint-Brieuc.
Bien sûr.
Et ancien entraîneur de Saint-Malo, allez-y pour le National.
Et en National, pour finir avec les résultats, on a eu Guillaume Genèse, bien sûr, avec Concarneau tout à l'heure. Concarneau qui s'est imposé 1-0. Victoire de Créteil à Béziers, 2-1. Important là aussi pour les Concarnois. Boulogne a battu le Puy 1-0. Dunkerque a battu le Gazellec Ajaccio 2-0. Victoire d'Avranches également 4-1 à Lyon-Duchère. 0-0 entre Bourg-en-Bresse et Pau. Entre Cholet et Bastia-Borgo. Victoire du Red Star face à Laval 1-0. Et puis, le petit événement, c'est l'ancien entraîneur de Guingamp, Victor Svinka, qui a décroché sa première victoire de la saison avec Toulon face à Villefranche, 3-0.
Il était temps quand même.
Il était temps. Les Toulonnais restent bons derniers, mais enfin une victoire.
Un dernier mot de la Unodet, parce qu'il s'est passé des choses sympas ce week-end. L'équipe A déjà s'est qualifiée en Coupe départementale 2-0 face à Ivignac, doublé de l'inévitable, nous dit-on, Thomas Quentin. L'équipe B s'impose 12-1 en challenge du district, donc belle victoire, large victoire. L'équipe C s'incline 5-3 en D3, match en retard. Et puis attention, la cerise sur le gâteau, c'est l'équipe D, la Dream Team, qui a bien porté son nom ce week-end parce qu'ils ont dû attendre la 30e minute de jeu pour se rendre compte qu'ils étaient à 10 sur le terrain, 10 contre 11, alors qu'ils avaient les 3 remplaçants disponibles. 0-0 pendant une demi-heure à 10 contre 11, ils passent à 11 contre 11, défaite 4-0.
Ça aurait peut-être dû rester
bravo
à 10.
Bon, bravo, la Unodet.
Allez, prochain rendez-vous avec les déchaînés du football demain matin, 8h38. La rubrique pour Lorient et pour les Guingampais dans les Côtes d'Armor. Et pour les Morbihanais, la rubrique pour Lorient avec Gaëtan. Hein. Pierre, vous, ce sera pour Guingamp.
Bien sûr.
Et puis, rediffusion de la rubrique comme tous les jours à 17h38. Prochain match avec l'En Avant Guingamp vendredi soir à 20h. Déplacement au Mans. Les Merlus, eux, joueront samedi en match décalé. Samedi après-midi à 15h. Donc, prise d'antenne à 14h30. Contre Chambly.
Exactement.
Vous êtes décalé encore, vous.
Nous, on n'est plus décalé depuis 3 mois. Hein.
Si, à part Lorient.
Ouais, c'est vrai que Lorient, c'est souvent le samedi après-midi maintenant. Bon, et je crois que ça va continuer quand je regarde un peu le tableau.
Oui, Ajaccio sera le cas, à 3 sera le cas, contre Le Havre sera le lundi. Voilà, c'est souvent décalé.
Bonne soirée à tous, messieurs.
Bonsoir,
merci
Bonsoir.
Willem.
Bonsoir, merci Willem.